France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, c'est avec Alain Desrumaux, fidèle parmi les fidèles de notre rencontre dominicale, ami, si je puis me permettre, cher Alain, nous avons beaucoup parcouru les régions du sud-est de la Turquie et vous m'avez toujours accueilli avec bienveillance lorsque je vous ramenais des photographies et autres informations. Voilà, des églises syriaques du Tourabdin. Alors, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, vous êtes spécialiste de la langue et de la culture syriaque, on pourrait peut-être même le mettre au pluriel, des cultures de langue syriaque. Et nous allons découvrir ce matin ensemble, par votre voix, les chrétientés du sud de l'Inde, et particulièrement de la région du Kerala. Alors, je vous poserai quelques questions plus précises, mais l'idée de départ est venue d'un projet de collaboration que vous avez monté pour l'étude et la valorisation de leurs manuscrits. Alors, c'est ça qui m'a intéressé, des manuscrits en langue syriaque dans le sud de l'Inde, au Kerala, qui est connu pour la beauté de ses paysages et ses plages, avec une institution de la ville de Kottayam. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? D'abord, peut-être de recontextualiser la géographie et l'histoire de ces communautés. D'où viennent-elles?
Rendre compte du travail qui est effectué en coopération, je vais le souligner, dans ce lieu qui paraît loin des communautés syriaques, là où elles sont nées, le Tourabdin dont vous avez parlé, l'Irak et bon, puis le Liban, en fait, sont très liés à ces régions. Et bien que sur la côte extrême sud du sous-continent indien, faut se rendre compte qu'il y a là-bas, on pense, plus de 6 millions de chrétiens. Enfin, c'était des statistiques en 2021. Bon, disons autour de 19% de la population à l'époque, et qui sont répartis dans quelques districts en fait du Kerala, dans le centre du Kerala, au bord de la mer. Nous avions, grâce au CNRS et au ministère des Affaires étrangères, la commission des fouilles, nous avions avec Françoise Briquel Châtonnet qui est maintenant la présidente de la Société d'études syriaques. Tous les deux, nous avons fait une mission à trois avec Jacob Teke Parampil, qui est un prêtre du diocèse de Tiruvalla et qui a été nommé le directeur du centre œcuménique qui s'appelle SERI, Saint Ephraim Ecumenical Research Institute, qui est lié à l'université Mahatma Gandhi, université d'État, qui est liée à cette université pour délivrer des diplômes. Je suis content d'en parler aujourd'hui, merci de m'en recevoir, parce que le SERI fête son 40e anniversaire de sa fondation, c'était le 14 septembre 1985, il l'a fêté là au mois de septembre, et nous avons toujours travaillé en collaboration pour justement soutenir le travail remarquable que fait ce centre au service de la culture syriaque qui est le fond de leur monde, ce sont des chrétiens d'origine syriaque. Alors, je rappelle pas l'histoire, on est ici pour 3 heures, sinon.
Il faut nous dire quand même, nous donner quelques indications, quelques lignes. Que font des chrétiens syriaques dans le sud de l'Inde? Alors, nous connaissons la tradition de l'apôtre, voilà, qui serait venu dans cette partie du monde. La route des comptoirs à l'époque persane.
Alors, c'est exactement ça. Je crois qu'il y a dès l'époque romaine, il y a des liens via les États du Golfe, des liens sur la côte dite du poivre, sans doute pour les épices, pour les perles peut-être. On sait de manière certaine qu'il y avait des chrétiens et des chrétiens d'origine syriaque au 6e siècle au Kerala, ça c'est sûr. Maintenant, il y a des traditions qui font débarquer évidemment l'apôtre Thomas, dont le tombeau est censé être sur la côte est.
À Madras. De l'autre côté par rapport au Kerala, voilà, pour que les gens se voient la géographie.
Qui aurait été le lieu de son martyre. Puisque le texte apocryphe des Actes de Thomas raconte qu'il a évangélisé l'Inde et envoyé par Jésus un peu de force, d'ailleurs, parce qu'il voulait pas y aller, il trouvait sans doute que c'était un peu dur comme région, le climat peut-être. Bon. Et il a fini martyr sur la côte est. Mais il y a des traditions qui le font débarquer à Kranganore, c'est-à-dire au nord de Cochin, qui est célèbre pour beaucoup de raisons, notamment pour sa synagogue, qui est très belle, et pour le lieu où Vasco de Gama a débarqué, et à son église, et où il a été enterré. Mais en fait, les chrétiens sont installés là depuis très longtemps. Oui, il n'est pas impossible qu'il y ait eu au 4e siècle l'expédition, une expédition qui a formé d'ailleurs déjà une petite église. Tout ça, c'est des discussions historiques qu'on peut mener. De même qu'il y a des témoignages archéologiques de la présence romaine à cette époque. Nous avions fait une mission qui a porté sur 48 églises.
Extraordinaire.
Et il y en a beaucoup plus, mais dans 48 églises, il y a des inscriptions syriaques. Je pense d'ailleurs qu'on avait eu l'occasion d'en parler ici dans votre émission avec Françoise Briquel. Ça fait une centaine d'inscriptions. Et alors, on a eu l'occasion dans cette mission, avec le père Jacob Tekeparampil, qui est vraiment un grand créateur universitaire, au fond, de formation. Il a étudié à Paris, il a été auditeur à l'École pratique des hautes études, mais il a aussi séjourné 2 ans en Allemagne, et puis en Angleterre, enfin Grande-Bretagne, et dans lieux universitaires. Donc c'est un savant et un pédagogue qui anime d'ailleurs toujours son désir, c'est que les gens puissent apprendre le syriaque. Et il fait un cours plusieurs fois par semaine là depuis un an, qui a, je crois, 80 auditeurs dans le monde entier. Aux États-Unis, en Russie, en Australie, en Europe, des gens, donc des chrétiens syriaques, qui sont plus forcément encore au Kerala. Nous soutenons ce travail, qui est considérable, avec la conviction que, et la découverte que nous avons faite, nous, parce que on s'imaginait pas d'aller au pays des éléphants et des noix de coco. On s'imaginait pas finalement, en tout cas moi français, petit français dans ma banlieue parisienne, et cette mission nous a fait découvrir une culture syriaque enracinée, en lien profond. Ça c'est essentiel de dire ça, enracinée dans les origines du monde syriaque. Alors, à tel point que...
Pardonnez-moi, Alain Durimo, je vais vous interrompre. C'est-à-dire que on parle du Kerala comme une périphérie géographique, mais qui n'est pas une périphérie culturelle du monde syriaque.
Pas du tout, finalement. Exactement. C'est bien que vous souligniez ça, Sébastien. C'est essentiel. En coopérant pour travailler avec les manuscrits, parce qu'il y a des manuscrits syriaques au Syrie.
Bien conservés, dans quel état sont-ils?
Alors, ils sont pas trop mal conservé.
Parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans ces régions.
Mais il y a de l'humidité, il y a du champignon, il y a de la petite bestiole, ça grignote. Mais justement, nous avons fait en février dernier, avec une restauratrice, Marie Vinour, nous avons fait des opérations de conservation et d'enrichissement d'un atelier pour préserver et conserver les manuscrits. Bon, et puis moi, ce n'est pas mon métier. Et moi, je m'occupe du contenu des manuscrits et le catalogage avec Jacob et avec Françoise Briquel-Châtonnet. C'est toujours un trio infernal. Et cette découverte que il y a, bien sûr, les richesses habituelles, je ne vais pas passer tout en revue, les richesses bibliques, les anaphores liturgiques, les anaphores, c'est-à-dire la messe, après le baiser de paix, quand la messe se déroule pour rappeler le mémorial de la passion de la résurrection et puis arriver à l'Eucharistie. Bon, les nombreux rituels, très diverses, les rituels d'ordination hiérarchique, les rituels pour les malades, les bénédictions. Au passage, je dis, bien sûr qu'il y a toutes les grandes œuvres, hein, Sévère d'Antioche, Barébraüs, Barsalibi, etc. Donc les grands, Barébraüs, c'est le XIIIe siècle, Barsalibi, c'est le XIIe, Jacques d'Édès, au VIIe siècle, etc. Des textes grammaticaux. Ce sont des gens qui ont, attention, écrit au Kerala.
Voilà, on parle de manuscrits qui ont été écrits sur place et non pas importés. Et c'est la subtilité.
La bonne question est là. Tout à fait, vous touchez du doigt tout. Bon, vous avez l'habitude.
De quelle époque?
Et alors, au Siri, à Kottayam, le premier manuscrit le plus ancien, daté, il est de 1588. Et puis, on a jusqu'au début du XXe siècle.
Est-ce que je dis une bêtise à l'un des Rumeaux en rappelant le fait que les Portugais, quand ils sont arrivés, ont beaucoup détruit de ce patrimoine?
Il y a toute une tradition qui pense que les jésuites, en particulier, ont fait brûler des manuscrits parce qu'ils étaient catalogués de nestoriens. Une hérésie, hein. Alors que, effectivement, c'était simplement des manuscrits. Bon, d'ailleurs, syro-orientaux, c'est-à-dire dans l'écriture qu'on trouvait en Irak. Hein. Il faut pas majorer cette légende. Il y a eu beaucoup de manuscrits conservés, et il y en a eu beaucoup aussi d'importés, justement. C'est un phénomène qui est essentiel à la compréhension du patrimoine manuscrit du Kerala. Des allers-retours constants entre le Kerala, Jérusalem et le Tour Abdin. Par exemple, c'est frappant, il y a un manuscrit qui est assez récent au Siri, dans la bibliothèque de manuscrits, qui donne un texte complet, j'ai eu ça avec surprise, le texte complet. Je dis, mais ce texte, ça me rappelle quelque chose. C'est l'histoire de l'arrivée de deux évêques du Tour Abdin en 1685. Donc, il raconte cette histoire vue par un œil du 19e siècle. Hein. Et c'est exactement le même texte que l'on trouve reproduit sur une grande plaque inscrite dans une église du Kerala. Donc il y a cette conscience des évêques envoyés par le patriarche d'Antioche, le patriarche syriaque orthodoxe, qui sont venus pour, disent-ils, c'est ce que dit le texte, pour évangéliser, porter la bonne nouvelle du christianisme aux Indiens. Donc les liens et les liens avec le monde syriaque en général est constant. On trouve par exemple un manuscrit, j'ai noté, même qui a été copié en 1908. Je vous donne simplement le petit texte qui termine le manuscrit. J'ai copié ce texte sur un exemplaire, un ancien livre d'ordination de la bibliothèque du métropolite Ionakios Elias, le bon chanteur, métropolite à Jérusalem. Donc, il y a ce raccord, je dirais, constant avec Jérusalem et avec le Tour Abdin, comme je l'ai dit. Mais on le voit en étudiant très de près les papiers des manuscrits, l'écriture.
Oui, ce qui est important toujours, l'analyse de la texture et même de l'origine de ces papiers.
Alors, on est en plein monde indien. On a des filigranes, le papier fabriqué pour Cheikh Ahmed Bombay 1865. Voilà, des papiers comme ça. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant. Je crois que s'il y a des gens qui veulent étudier l'histoire du papier, il faut aller voir les papiers indiens et en particulier les papiers utilisés par les Syriaques en Inde. Ils sont des indiens.
Alain Desrumaux, est-ce que les populations actuellement chrétiennes du sud de l'Inde ont conscience de ce lien d'abord avec le monde syriaque et est-ce qu'ils le valorisent? Est-ce qu'ils essayent de redécouvrir cette origine?
Alors, c'est une question délicate parce que on se rend compte, évidemment, et c'est normal, la liturgie est beaucoup en malayalam, la langue du Kerala, qui est d'autant plus évidemment importante que c'est une parenthèse, je me permettrai pas d'aller au-delà parce que je suis pas spécialiste du tout, mais on constate que le Kerala est un lieu de culture, un lieu où on écrit beaucoup, on publie beaucoup et à très très bon prix, très bon marché. Voilà. Donc la langue est essentielle et puis la liturgie se vit dans la langue du pays, mais il y a énormément de conservation dans la liturgie. Les traces du syriaque sont prégnantes, sont essentielles, avec une grande liberté d'ailleurs. Je trouve que les chrétiens du Kerala, les chrétiens syriaques, quels qu'ils soient, de quelque église qu'ils soient, des églises syro-orientales, syro-occidentales, les syro-malankars et les syro-malabars, et puis les différentes églises, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plus de 7, églises différentes, y compris d'origine nestorienne, mais on dit pas nestorien, ils sont pas hérétiques, il y a une grande communication entre ces églises, et le Syrie est un centre œcuménique, où vous avez des chercheurs des différentes églises qui sont ensemble pour travailler à la culture syriaque et à l'enseignement du syriaque. Et donc, c'est très œcuménique. Il y a un grand partage. Je dirais même, on le sent dans toute l'histoire. C'est pas seulement aujourd'hui. Et heureusement que c'est aujourd'hui. Ils sont beaucoup moins coincés que, je dirais, que les catholiques français. C'est évident. Ils ont une grande liberté liturgique dans la langue et dans les pratiques. Et dans leur histoire, on trouve justement, c'est le cas de cette bibliothèque du Syrie, on trouve des mélanges de textes qui viennent de communautés syriaques orthodoxes et de communautés syro-oriental.
Comme si les deux grands courants historiques du monde syriaque se retrouvaient finalement au sud de l'Inde.
Communiquaient ensemble. Et dans une pensée qui remet... par exemple, je ne sais pas si on a le temps de lire un texte, mais j'aurais aimé vous parler de la manière dont ils sont capables de relire des textes traditionnels. J'ai trouvé, par exemple... petits textes manuscrits qui réinterprètent des visions qui ont été écrites autour de l'année 1222 par Salomon de Bassora, qui était catalogué de Nestorien, un texte réécrit par un syriaque orthodoxe pour réinterpréter l'origine de la croix du Christ, qui est simplement le morceau de bois qui a permis à Moïse d'ouvrir la mer Rouge et qui en fait tient son origine dans l'arbre cueilli sur un amandier la branche cueillie sur un amandier dans le paradis terrestre au moment où Adam a péché et sur lequel Dieu lui a ordonné d'inscrire son péché. Et le lien entre le péché d'Adam et la résurrection et la mise en croix du Christ est opéré magnifiquement par un texte du Kerala que j'ai pu lire avec grand bonheur cette année encore.
Merci beaucoup, cher Alain Desrumeaux, pour cette très très belle évocation. Je voudrais citer deux ouvrages avant que nous nous séparions, celui de Joseph Yacoub et de Pascal Maguessian pour L'Armour d'une mère, itinéraire d'un assyro-chaldéen qui est sorti aux éditions du Cerf, et le second livre, Vous serez libres mes filles, l'histoire fascinante de l'orphelinat français du Bosphore. C'est le petit orphelinat qui a accueilli des enfants et des jeunes filles chaldéennes de Bébek, pour ceux qui connaissent Istanbul, avec la collaboration de Marie-Hélène Normand et Fortunato Maresia aux éditions Nîmes. Oui, je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Manuel Couturier pour la technique. Nous retrouvons maintenant sur France Culture le rendez-vous protestant. Solae, bon dimanche.